الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
Bien, nous allons finalement dans la poursuite que de ce que vient de mettre en évidence le Cheikh Minta par rapport à ses réflexions sur la nécessité, à partir de la bonne connaissance de Ilm al-Tawhid, de quelque chose qui est très concret et dont j'aimerais depuis longtemps parler de façon un peu concise et ramassée en finalement un cours de réflexion entre notre situation individuelle, celle de chacun d'entre nous, parce que souvent interpellé également par des frères et des sœurs qui disent et qui interpellent: je suis tout seul, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de pouvoir vivre ma foi, et comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul et qu'est-ce que je peux faire? Et puis de cet individu, femme ou homme, jusqu'à la réalité des associations qui aujourd'hui sont présentes en Europe et en particulier pour ce qui vous concerne en France et plus spécifiquement dans la région lyonnaise. Donc on va, pour ce qui nous concerne, avoir une réflexion qui part, comme vous l'avez reçu dans le plan, de la prise de conscience. C'est-à-dire cette prise de conscience de la spiritualité et de notre rapport à Dieu que chacun nous essayons de porter de la meilleure des façons qui soient. C'est-à-dire de comprendre une chose finalement fondamentale. C'est que finalement, de deux choses l'une, soit on porte cette foi dans son cœur et on sait très profondément et très intimement que Dieu aime ceux qui l'aiment et qu'on est conscient de cela tellement que l'on fait ce que font ceux qui aiment. Ils se souviennent beaucoup, ils se rapprochent beaucoup, ils approfondissent et ils le disent beaucoup. Et surtout une chose, ils mettent au cœur de leur vie la foi en celui qui donne la vie. C'est soit ça, soit effectivement ça devient un discours qui s'intellectualise d'ailleurs, qui est de dire oui, je crois, et parfois avec beaucoup de sincérité, et c'est la réalité de beaucoup d'entre nous, je crois, mais quand véritablement on analyse ce que cette foi et cette croyance produit sur la vie, on s'aperçoit que c'est pas grand chose. C'est comme une parenthèse à tout le reste de notre vie. Certains considèrent effectivement les actes, la prière, le jeûne et tout ce que nous devons faire comme des parenthèses, des petites parenthèses à une vie qui, elle, continue. Et donc, comme il est dit dans le Coran, à la tarf, c'est-à-dire croire en Dieu un peu sur le côté de sa vie. Alors, de deux choses l'une. Soit on vit cette prise de conscience, soit on entretient une négligence. Et quel que soit le discours que l'on tient sur sa vie, finalement la prise de conscience, elle est celle-ci. Qu'est-ce que ta foi fait de toi? Qu'est-ce que ta foi fait de ta vie quotidienne? Est-ce qu'elle est tellement une lumière qu'elle éclaire ce que tu es et ce que tu fais, ou est-ce qu'elle est simplement un alibi auquel tu te rattaches quand tu ne sais plus très bien qui tu es? Est-ce qu'elle est au cœur ou est-ce qu'elle est dans la marge? Est-ce qu'elle oriente ta vie ou est-ce que tu en parles à côté de ta vie? En d'autres termes, celui que tu dis aimer, celui dont tu veux te rapprocher, celui vis-à-vis duquel tu veux approfondir ce qui est dans ton cœur et respecter l'orientation qu'il te donne, où se situe-t-il dans ta vie personnelle? Finalement, c'est la question fondamentale de chacun et de chacune ici. Qu'est-ce que ta foi fait de toi? Qui tu es? Quelqu'un qui en parle ou quelqu'un qui la vit? Où tu es? Est-ce que tu es quelqu'un dont c'est le souffle ou quelqu'un uniquement qui s'en habille? Habit qui change rien à l'intérieur mais qui montre tout à l'extérieur. La vraie question, elle est cette prise de conscience, celle dont nous parlions effectivement quand nous avons parlé de tout ce cheminement de celui qui croit, qui part du cœur, qui comprend le pardon, qui comprend la douceur de l'intérieur, tellement à l'intérieur que ça vient de l'intérieur, tellement à l'intérieur que c'est une prise de conscience qui part du plus profond de l'être, et qu'est la vraie prise de conscience de la foi, ce que nous avons entendu sur et tawhid, être avec Dieu, que ce soit central, comme il a été dit à Moussa alayhi salam. Il quitte sa famille et il leur dit: j'ai vu quelque chose, peut-être que je vais vous y venir avec quelque chose qui est une bonne nouvelle. Eh bien, ce qu'il vient entendre, c'est ceci, qu'il faut vraiment méditer de l'intérieur. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Ce seul verset, il est la prise de conscience. Un Dieu, une prière, un souvenir. Est-ce que nos vies sont orientées autour de ce principe-là? Parce que si ce principe-là, il est devenu la lumière qui nous anime, alors il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Mais il y a par contre un chemin qui est dessiné, celui de répondre à cet appel. Parce que cet appel-là est la vie. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de l'envoyer quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Pourquoi ? Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. S'il est tellement présent dans la prise de conscience, il est tellement avec toi qu'il est entre toi, ta conscience et ton cœur. Il est dans la conscience de ton affectivité et de ton intelligence. Et ça veut dire que ça devient central. On commence à éviter ces négligences. Ou même si on va être négligent, on a conscience de la négligence. Parce que le pire, c'est effectivement d'être négligent sans le savoir, d'être négligent par habitude, que l'habitude finit par tuer la conscience de la négligence. C'est comme quand vous regardez tellement la télévision que vous ne savez plus que c'est tellement. Mais vous continuez à la regarder. Vous n'avez plus conscience de la limite parce que la limite n'habite plus votre cœur. Et que faire une faute, c'est une chose. Ne pas en avoir conscience en est une autre. Mais faire une faute en étant conscient de sa faute, c'est le sens de la foi. Faire tellement de fautes qu'on n'a plus conscience des fautes, c'est la négligence de ceux qui portent la foi sur le côté. Mais ce n'est pas cela non plus. Ce n'est pas cela seulement. C'est aussi toute cette dimension d'une vie qui, quand elle met la lumière en son centre, oriente toute l'action.
Parce que c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que ces rencontres que nous avons, elles servent à quoi ? À venir s'asseoir et entendre des paroles qui réconfortent notre cœur quand on néglige nos corps pendant des semaines ? Entendre des paroles qui réconfortent le cœur quand on est irrespectueux avec sa conscience pendant des semaines ? Non. Le but, c'est de fortifier le cœur pour orienter la conscience. Être tellement revigoré dans son cœur qu'on a une conscience de l'action. Et je vous promets que si nous prenions simplement mes 10 secondes de notre temps journellement pour se rendre compte de la conscience de l'action que nous devons avoir là où nous sommes, eh bien nous agirions davantage par rapport aux problèmes que nous avons. Simplement, nous parlons beaucoup de foi. Et en parler enlève l'intensité de ce qu'elle est pour nous faire agir. Beaucoup de paresse à côté de beaucoup de discours. C'est une prise de conscience dont nous parlons avec des mots, ce n'est pas une prise de conscience que nous vivons avec le cœur. C'est le plus grand problème que nous ayons. On parle beaucoup de ce que nous devrions sentir. Et il faudrait sentir davantage et parler un peu moins. Quand on parle moins et que l'on sent, on se sent dans l'obligation d'agir. Quand on parle beaucoup et qu'on se sent peu, on est souvent assis. Souvent assis. N'est-ce pas ? Et cette dimension, c'est la prise de conscience sur laquelle la clé de tout est là. À qui vient demander, sœur ou frère, eh bien voilà, j'ai envie de faire quelque chose, il faut établir l'enracinement de cette prise de conscience. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu sens ? Est-ce que tu travailles, toi, face à toi-même, devant Dieu, suffisamment pour que ça devienne le sens de ta vie ? Même dans ton choix de métier, même dans ta façon d'être à la maison, même dans ton environnement, c'est tellement l'essentiel, que ça rayonne sur tous tes choix, non pas pour les enfermer, mais pour les orienter, pour les illuminer. Cette dimension de la prise de conscience, elle est renvoyée à chacun d'entre nous, parce que là, ce n'est pas un discours pour tous. Comprenez bien la différence. Il y a parfois des conférences que l'on fait pour tous, et parfois il y a des conférences que l'on fait pour chacun. Ce n'est pas pareil. Parce que c'est quand chacun se sent concerné qu'on fait une communauté pour tous. Et que souvent, parfois, souvent on entend nous-mêmes dans ces conférences des propos pour tous et le chacun part moins concerné. Et ça, c'est le grand problème que nous avons. Une conférence, une rencontre, un cours n'est pas réussi par le nombre de ceux qui y assistent, mais par le nombre de personnes qui se sentent concernées, personnellement, dans la prise de conscience. Je suis venu, pourquoi ? Ça a marché, comment ? Qu'est-ce que ça dit pour ma prise de conscience ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans cette perspective-là, doit faire ce petit bilan de conscience. Parce qu'on est là pour ça. Alors je sais bien qu'à l'époque moderne, le moment de l'évaluation de conscience s'est passé par perte et profit. Mais qui est avec Dieu sait que c'est incontournable. Juste avant de dormir, ou en se levant avant le lever du soleil, de faire l'examen de conscience. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Et pourquoi est-ce que je suis là ? Est-ce que c'est au centre de ma vie, ou est-ce que c'est à côté ? Parce que remercier un frère dont on a l'impression que pour lui c'est au centre de sa vie, ce n'est pas la preuve que c'est au centre de la nôtre. Et la meilleure façon de remercier un frère ou d'accompagner un frère ou une sœur pour qui c'est le centre de la vie, c'est de le placer au centre de la sienne. C'est ça le véritable accompagnement. Le véritable accompagnement dans la fraternité, c'est deux êtres qui l'ont placé au centre de leur vie, pas un au centre et l'autre à côté. cette prise de conscience-là, je crois que c'est celle que nous devons diffuser le plus. Mais avant de pouvoir la diffuser le plus et d'être vraiment conscient de ce qui doit être au centre de la vie des autres, qu'on soit chacun, dans cet examen de conscience, au centre de nos questionnements, de ce qu'on fait de notre vie, de comment on a envie de vivre ici. Maintenant, cette idée que certains ont, que peut-être ils ne devraient pas être ici pour vivre leur foi, est une question dépassée. Tu n'as pas le choix. Tu es ici, Dieu t'a mis ici, ce n'est pas un hasard. Tu es ici, tes enfants vont sans doute vivre ici, et ce pays-là, c'est le tien. Ta prise de conscience dans la foi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu portes cette conscience de la présence de Dieu ici pour pouvoir vivre ici de la meilleure des façons? Cette prise de conscience, elle est vraiment fondamentale. Immédiatement avec cette prise de conscience, il y a une chose qui doit devenir un fondement de ta vie. Le fondement de la vie de chacun. Qui dit Dieu, qui dit je porte cette foi et cette lumière m'habite, c'est une chose. Il est devenu pour tous ceux qui l'entourent un témoin. Litakunu shuhada'a 'alan-nas, pour être témoin devant les hommes. Nous, notre da'wa, ce qui s'appelle la prédication, ça devrait être traduit dans le sens qui ressort de tout ce que le prophète sallallahu rabbi alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est un témoignage. Mon appel, c'est mon témoignage. Et mon témoignage, il est comment? Il est la lumière que je porte et le geste que je montre. Faire le bien. Faire le bien en toutes circonstances. À Lyon, à Paris, à Genève, partout où je suis, que mon geste dise ma foi. Faire le bien. Fais le bien où que tu sois, dans ton travail. Tu n'as même pas besoin de parler de Dieu. Il faut qu'on sache, dans ce qu'on voit, que tu es un être de conscience. Et quand on questionnera ta conscience, même dans le silence, on sentira que quelque chose t'habite. Et ce quelque chose, toi tu sais ce que c'est. C'est le véritable témoignage. Le fait de trop parler de sa religion et de mettre systématiquement l'islam, 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 ce n'est pas la meilleure façon de témoigner de l'islam. Parle moins et montre tout. Ce que tu as fait, ce que ta foi a fait de toi. Dans ton travail, dans la rue, dans ta façon de regarder, dans ta façon de saluer. Il y a des gens parmi notre communauté. La façon dont ils saluent, tu n'as même pas envie de savoir qui ils sont. C'est ça la réalité. Si tu as pris conscience du salut, qui est le premier témoignage, comme je salue, tu peux savoir comme je suis. Cette dimension-là, elle est fondamentale. Prise de conscience pour soi, témoigner devant tous. Cette prise de conscience, elle est très importante. C'est-à-dire que ça doit nous habiter tout le temps. Non pas pour être des êtres surveillés en permanence, il faut voir qu'on commence à se dire à tout craindre du regard des autres, mais plutôt à montrer avec sérénité qui nous sommes. Ce que nous sommes, ce que cette foi fait de nous. Éviter, sortir de cette espèce de colonisation de nos têtes aujourd'hui, en France et en Europe, une espèce de complexe qui nous habite, qu'il faut qu'on se cache de ce que nous sommes. Non. Si tout ce qu'ils disent, c'est faux, c'est ta façon de vivre qui le montrera. Ce n'est pas ton discours. Et il ne faut pas de grands discours. Il faut être. Il faut cette prise de conscience individuelle. Alors à ceux qui demandent, est-ce que je dois m'impliquer dans telle association, tel mouvement, avant même de commencer à réfléchir à ça, avec Dieu en témoin. Sois-le dans ta vie déjà. Et ça veut dire quoi dans ta vie? Ça veut dire pas simplement sur la place publique. Montre-le avec ton père. Montre-le avec ta mère. Montre-le avec ta sœur. Montre-le avec tes frères. Montre-le avec ta télévision. qui tu es quand tu te laisses coloniser l'esprit pendant des heures devant la plus stupide des stupidités qui soit. Quel témoignage tu montres de toi ? Essaye de t'imaginer l'espace d'un moment qu'un être que tu respectes qui est pieux soit à côté de toi en train de te regarder une stupidité. Essaye de t'imaginer. Tu es devant la télévision et tu te dis, il y a l'imam que je respecte ou l'être que je respecte, il est assis à côté de moi, il me regarde. Qu'est-ce qu'il peut penser ? Ça, c'est l'ABC. Après, tu enlèves la personne et tu penses à toi-même en train de regarder la stupidité que tu regardes. C'est pas fameux comme ça. De quoi tu témoignes ? Tu témoignes que ce qui est futile et stupide réussit à t'enchaîner. Tu t'enchaînes à la stupidité. Quel témoignage de grandeur vas-tu faire ? Par contre, tu peux sortir après avoir regardé la stupidité et tu dis « l'islam ». Comme si tu témoignais devant Dieu que quand tu es en public. Si ce que ta femme ou ton mari ou ton père ou ta mère peuvent dire de toi dans la stupidité ou dans la négligence, si tu ne témoignes de rien avec ceux qui sont proches, ne fais pas semblant d'aller témoigner devant ceux qui sont loin. La prise de conscience, elle commence là, dans ce petit environnement. Parce qu'il y en a qui sont de tellement beaux témoins en public et des petits cachetiers en privé. Et cachetières, c'est la réalité. Et nous le savons. Mais la prise de conscience, c'est ça. C'est vraiment cette réalité qui vient de l'intérieur de ton cœur, qui vient de l'intérieur de ta chambre, qui vient de l'intérieur de ta demeure, qui vient de l'intérieur de ton immeuble. Ou dans ton immeuble, on doit voir quelque chose. Puis ensuite, publiquement. Cette prise de conscience, elle est accompagnée par deux choses. Toujours. Dès qu'on a commencé, dès que chacun d'entre nous entre dans cette dynamique-là, il sent qu'il lui faut quelque chose. Immédiatement. Il y a deux choses qui sont fondamentales. La première des choses, c'est que quand on sent qu'on est en chemin, on sent avancer sans te former. Et de la même façon, cette formation va s'accompagner d'un certain type d'engagement, d'un certain engagement pour le bien d'une certaine activité. Parlons de cette formation un tout petit peu. Si aujourd'hui, tu es à un certain niveau de savoir et que tu t'engages, dès que tu vas entrer dans un processus de réflexion personnelle et mettre Dieu au centre de ta vie, tu t'aperçois immédiatement qu'il faut que tu saches plus pour pouvoir aller plus loin. J'ai souvent répété, mais qui dans cette salle ne se donne pas le temps de prendre du recul par rapport à toutes ses activités pour se former ce manque de respect ? Manque de respect à son cœur et à son intelligence. Se former est une nécessité. Si c'est une possibilité de le faire en groupe, alhamdoulillah. Mais déjà tout seul, on peut se former. Jamais en France, jamais, il n'y a eu autant d'ouvrages en langue française sur l'islam qu'aujourd'hui. Jamais. Il y a des livres, il y a... Et se former aussi, c'est faire des choix aussi. C'est se former sur plusieurs plans, je vais y venir tout à l'heure. Mais la nécessité d'acquérir une connaissance, elle est fondamentale, elle participe de notre identité. Être musulman, c'est s'éduquer, personnellement. C'est avoir le souci demain de savoir plus et d'être plus solide qu'aujourd'hui. En permanence. C'est si Dieu est au centre de ta vie, la formation accompagne ta vie. Tu ne peux pas faire autrement. Et si aujourd'hui, certains d'entre vous pensent à Dieu, mais ne se donnent pas les moyens de se former pour lui, de se former pour eux, eh bien, ils se mentent à eux-mêmes. Ils disent le chemin et en prennent un autre. Ils disent le sérieux et vivent de négligence. On ne peut pas ne pas prendre du temps pour pour se former intellectuellement et pour se former spirituellement. Spirituellement et intellectuellement, les deux ensemble. Et de la même façon, parce que ça, il faut le dire également, certains supposent qu'il y a la formation. Alors, quand on leur demande, ben, on aimerait bien que tu puisses faire quelque chose, ils disent, non, non, moi, je me forme. Comme si on se formait loin de l'engagement. Mais non. Quand on va commencer à mettre justement cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu au centre de nos vies, on va sentir qu'on a besoin de deux choses. Un, de solidifier, puis deux, on veut donner. Parce que qui est avec Dieu veut donner, toujours. Veut donner de son bien, ce qu'on a vu déjà. Donner de son bien, donner de son temps, donner de sa personne, donner de sa générosité. Parce qu'il sait que quand je suis généreux avec toi, je m'approche de lui. Quand je te donne à toi, je m'approche de lui. Quand je suis avec toi, je suis proche de lui. Toujours. On sait que quand on est avec lui, on doit être avec les hommes et agir pour leur bien. Donc on sait immédiatement qu'après la prise de conscience, deux choses apparaissent comme des fondements de notre vie. Forme-toi, engage-toi. Forme-toi, engage-toi. Et ça, c'est des piliers. Ça devient immédiatement le sens. Ça oriente ta vie. Ça oriente ta vie. Et pour ceci, il ne faut pas penser à des études de alim, à des études de savants, à des études universitaires. Non. Je vous promets que dans la vie spirituelle, il y en a qui n'ont pas fait d'études et qui sont plus savants que ceux qui en ont fait 20. 20 ans d'études. Le savoir de la spiritualité ne se mesure pas au nombre d'études. Il se mesure à l'intensité de la foi et à l'exigence de l'action. On peut être simple et très savant par rapport à son action, comme on peut être très savant et complètement à côté de la véritable action. La clé, elle n'est pas là. La clé, elle est cette prise de conscience, cette nécessité de la formation et l'accompagnement de l'engagement. Alors venons-en justement à cette formation. Comment ? Parce que certains posent souvent ces questions-là et j'aimerais pouvoir apporter des réponses. La première des choses à faire, c'est de ne pas confondre les moyens de la formation et les finalités. La finalité de la formation, qu'est-ce que c'est ? S'approcher de Dieu, respecter les hommes, préparer l'au-delà. Non ? Bien. Les moyens, c'est autre chose. C'est ce qui va nous permettre ceci. Mais il y en a certains qui confondent les moyens et la finalité. Ils deviennent et ils veulent devenir. Et ils se focalisent sur El-Ilm pour El-Ilm. Le savoir pour le savoir. Et vous en avez certains, ils ne vous font pas trois phrases, ils ont placé six fois le mot El-Ilm. Être savant pour être savant. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être savant pour quoi ? Tu veux être savant pour être au service de ceux qui ne savent pas ? Ou être savant pour qu'on dise de toi que tu es savant ? Si c'est la deuxième hypothèse, tu es un savant ignorant. Alors c'est pire. Parce que le pire, c'est d'être un savant ignorant. Reste plutôt ignorant que de devenir un savant ignorant. Être savant pour qu'on sous-dise de toi que tu sais, alors tu ne sais rien. Par contre, ce moyen du savoir pour être proche de Dieu, respecter les hommes, préparer ton paradis, alors d'accord. Alors tu as compris la finalité et tu utilise les bons moyens. La finalité, elle est celle-ci. Elle est cet apprentissage de la spiritualité, être proche de Dieu. Tout ce que je sais, est-ce que ça me rapproche de lui ? Est-ce que ce que j'apprends en mathématiques, ce que j'apprends en sciences, ce que j'apprends en philosophie, ou tout ce que j'apprends, même dans toutes les sciences, bien entendu, islamiques, ça me rapproche de Dieu ou pas ? Parce qu'il y en a certains, ils vont même dans les sciences islamiques, ils passent des heures dans les sciences islamiques, et en fait, c'est-à-dire ils apprennent toutes les règles, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais pour dire qu'ils savent à ceux qui ne savent pas. Ils apprennent la limite, non pas pour la respecter, s'approcher de Dieu, mais pour dire à l'autre, tu vois que tu ne la respectes pas. Ils utilisent le chemin comme le pouvoir de celui qui chemine à côté d'eux. Ils font de ce qui devrait être un savoir, un instrument de pouvoir. Et ce n'est pas l'islam. Et ce n'est pas la finalité. Si ton savoir c'est devenu un instrument de pouvoir, alors t'es 1. Savant, 2. Ignorant, 3. Injuste. Alors vaut mieux que tu sois ignorant. Parce qu'alors là, c'est encore pire. Un savant ignorant et injuste. La réalité, elle n'est pas là. Connaître ses finalités, cette spiritualité, connaître ses finalités, être et respecter les frères et les sœurs et les hommes, la fraternité des hommes, de tous les hommes, de tous les êtres humains, et préparer la vie de l'au-delà. Ne rien sacrifier pour ça. Quels sont les moyens? Alors les premiers moyens qui sont simples individuellement, chacun d'entre nous ici dans cette salle devrait se tourner vers ces moyens. Le premier, il est simple. Bien entendu, il y a tout ce qui a été mis en évidence par rapport à la spiritualité qu'on préserve. Le recul. Là, on va rentrer dans un mois qui est le mois du Ramadan. C'est un formidable moyen de formation spirituelle. Et pas simplement en se préservant de manger et de boire, mais à se préparer à prendre du recul par rapport aux choses. Cette spiritualité-là, personne, il n'y a besoin de personne pour savoir comment gérer ses nuits. Prendre du recul, s'asseoir, réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on a déjà dit. Puis il y a une autre chose, la lecture. Lire. Il ne s'agit pas de lire des gros ouvrages, mais prendre le temps de s'arrêter. On est dans une société qui va tellement vite, les gens lisent de moins en moins. On compte à peu près 3% de lecteurs en moins chaque année. Et les musulmans, parmi ceux-ci, lisent de moins en moins. Et ils lisent de moins en moins, il faut lire plein de choses. Il faut lire par rapport à la tradition musulmane, oui, mais il faut lire aussi par rapport au contexte dans lequel on vit. Il faut lire en sciences sociales, il faut lire aussi dans les informations. Quand j'en vois ici, dont la seule source d'information, c'est le 20h, non seulement ils ne se respectent pas, mais ils ne respectent pas leurs sœurs et leurs frères et toutes les personnes qui dans le monde vivent l'injustice. Je vais vous poser une question. Vous savez aujourd'hui ce qui peut se passer en Palestine et dans les prisons. Vous savez ce qui peut se passer dans un certain nombre de pays qui répandent la torture et qui répandent la répression des dictatures. Vous savez ça. J'aimerais vous poser une question. Imaginez-vous, mais l'espace de quelques secondes, qu'une femme ou un homme, de ceux qui sont dans les prisons et qui sont injustement torturés, maltraités, humiliés, tout ce que vous savez, des choses les plus ignobles qui se passent dans les prisons. Vous imaginez l'espace, mais vous avez une vue de l'esprit pendant quelques secondes, d'un frère ou d'une sœur qui a été humilié comme elles sont humiliées dans tant de pays. Vous l'imaginez une seconde à côté de vous, alors que vous êtes en train de regarder le 20h et que c'est votre source d'information, et qu'on ne vous dit rien d'elle ou de lui. Je vous pose une question. Est-ce que vous la respectez? Alors, peut-être que vous ne pouvez rien faire pour elle ou pour lui, pour les délivrer du dictateur, mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vous informer, c'est de savoir. C'est d'avoir des sources d'information. Jamais, dans aucun pays, aujourd'hui musulman, vous n'avez autant de sources d'information que vous pouvez en avoir, vous. Et pourtant, on ne lit pas, on ne se renseigne pas, on ne dit que ce qu'on entend à la télévision. Et on sait qu'à la télévision et dans beaucoup de sources d'information, on n'a pas le dixième du quart de ce qui se passe vraiment. Quel respect nous avons-nous pour tous ceux qui sont en train de souffrir? Et même... Je vais même aller plus loin parce que je reçois des lettres sur ce qui peut se passer. Pour les moitiés des musulmans qui vivent en France, ce sont des citoyens français. Et aujourd'hui, il y en a qui se battent en France par rapport au mauvais traitement de ceux qui sont dans les prisons. De certaines personnes en France qui ont eu le délit du faciès. 8 mois de prison, 1 année de prison, et à la fin on dit, on n'avait rien contre vous. Un numéro de téléphone, un visage, un peu trop nord-africain, barbu, 8 mois de prison, 10 mois de prison, 1 année de prison, 3 mois de prison dans ce pays. Et ceux qui se sont levés, ce ne sont pas les musulmans. Parce que les musulmans ont tellement mis leur foi à côté de leur vie qu'ils ont peur de ce qu'on dira d'eux. Mais si vous êtes des citoyens, vous devez sur l'honneur et devant le droit français, puisque vous êtes des citoyens français, des résidents en France, dire que ça ne peut pas être. On ne peut pas traiter quelqu'un uniquement sur la couleur de son visage, ou parce qu'il a une barbe, ou parce qu'elle porte un voile. On ne peut pas nier la dignité d'un être de cette façon-là, et l'humilier en prison, pour lui dire après 8 mois, sortez. Et pourquoi vous m'avez retenu ? Sortez. Vous me demandez de sortir avec insolence. Vous m'avez gardé 3 ans, 2 ans, 8 mois en prison. Pour rien. Vous agitez à l'injustice, l'insolence. Et la communauté se tait. Parce que le pire, c'est que même elle ne sait pas. C'est qu'elle ne lit pas. Qu'elle ne sait pas qu'il y a des avocats qui sont sortis de la salle en disant « Non, on ne partage pas cette mascarade. » Alors, tu peux peut-être rien faire, mais au moins te renseigner puis demander à Dieu qu'il libère tous ceux qui sont injustement traités, humiliés jusque à quelques kilomètres de toi pour dire à ton pays, parce que tu es français ou tu résides en France, que ça ne peut pas être. Que tu ne peux pas accepter cette injustice. Et que si tu es français, avec une dignité et une conscience, tu lis et tu te renseignes. C'est sidérant, cette espèce de négligence que l'on a, même à se renseigner sur ce qui se passe ici ou là-bas. Et ça ne s'arrête pas aux musulmans, ça s'arrête à tous ceux qui sont injustement traités et par rapport auxquels il faut dire qu'on ne peut pas être d'accord. Qu'on ne peut pas être d'accord, mais le dire en connaissance de cause. Et si tu ne peux pas parler, si tu as peur, d'accord. D'accord. Et peur, c'est possible. La vie est la vie. On ne peut pas juger des gens qui sont dans des situations difficiles. Mais au moins, renseigne-toi et demande à Dieu. Implore-le. Fais des invocations pour ceux qui sont traités. Au moins ça. Aujourd'hui, il y en a, je me rends compte, ils ne savent même pas qui c'est. Anwar Ibrahim. Un de vos frères, un pieu. Il est accusé là maintenant et il va peut-être en avoir pour 20 ans de prison en Malaisie. Humilié, frappé. Un être, c'est une lumière. Il y a quelque chose qui est de la lumière, il s'est battu pour le bien. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais ce qui est en train de se passer avec lui est dramatique. Au moins, sache-le. Renseigne-toi. Et si tu ne peux rien faire, tu peux faire énormément en demandant à Dieu qu'il le libère des injustes. Au moins ça. Alors lui, c'en est un. Et il y en a tellement d'autres. Et quand vous voyez des sœurs, d'autres frères qui vous disent que de leurs frères ou de leurs sœurs vivent dans les prisons, de leurs maris vivent dans les prisons, même en France, vous dites que non. Au moins sachez-le. Au moins la source d'information, allez la chercher. Demandez à Dieu qu'il libère ceux qui sont injustement traités partout. Musulmans ou non musulmans. Cette dimension de la lecture, de l'information, d'arrêter de s'abrutir et de se complexer. Se complexer en disant, oh, avec tout ce qu'il dit sur l'islam, moins j'en dis, mieux c'est. D'accord, ne dis rien, mais informe-toi. Et nous, on ajoute à la lâcheté la paresse. Chacun d'entre nous, dans ta vie quotidienne, combien de tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ? Est-ce que tu fermes cette télévision et tu lis les journaux, 1, 2, 3 journaux ? Est-ce qu'effectivement tu fais ce travail ? Est-ce que tu prends le temps de t'informer sur ce qui se passe ? De ceux qui, dès qu'il se passe quelque chose, quelque part sur le territoire israélien, on arrive et au bulldozer, on démolit la maison. Et on n'en parle plus tellement il y en a. On démolit la maison. Dehors, femmes et enfants, et la maison est démolie. Et nous, on ne sait même pas. On ne compte même plus. Alors, c'est comme ça. C'est ce qui se passe aussi dans... Et j'aimerais vraiment vous dire qu'il faut une conscience mondiale de ça. De toutes les personnes qui vivent ça. Pas simplement le compte des musulmans. Bien entendu, ça nous intéresse. Bien entendu, tout ça est important. Mais de partout... Quand il y en a qui commencent à se poser la question si un dictateur comme Pinochet ne doit pas être jugé. Mais les humiliations, Mais l'horreur que ça a été. Alors il y aurait une mémoire pour ceux qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, et il y aurait l'oubli pour ceux qui ont tué des Chiliens. Il y a des mémoires à plusieurs vitesses, il y a des jugements à plusieurs degrés, il y a des gens qui sont plus dignes que d'autres. La quantité change quelque chose au droit. Et où on est dans ce discours ? S'informe plus. Et la conscience qui est la nôtre face à l'information. Alors, cette formation, il la faut aussi. Parce que, je ne vous rendez pas compte, j'ai vécu pour ce qui me concerne avec une famille et dans une famille où ça, c'était tellement prégnant que quand vous êtes dans cette façon-là avec le monde, ça vous pousse à avoir une foi très forte. L'information intensifie votre foi. Mais pas pour le mal, pour le bien, pour la justice. S'informer, c'est se spiritualiser. Avec Dieu, en demandant à Dieu, en étant au courant. Ce travail-là, il faut le faire. Moi, j'ai vécu avec un père, rahimahoullah, toutes les informations, ça le rendait malade. Mais quand vous êtes malade de l'injustice des hommes, il faut être très confiant de la justice de Dieu. Ce travail, on le fait. Combien de temps vous prenez dans votre vie ? Combien de temps vous prenez dans votre vie pour faire ce travail-là ? Alors, il y a ceci. L'autre élément de la formation, je vais un peu accélérer sur les autres éléments, mais ils sont importants. Vous pouvez faire seul tout ce qu'on vient de dire, mais vous pouvez aussi, là où vous êtes, avec un petit groupe de frères et de sœurs, vous réunir. Vous ne pouvez pas être informé de tout, mais on peut s'échanger des informations. Il faut qu'on soit utile les uns aux autres. Un petit groupe de formation où on se voit 2 heures par semaine. Il ne faut pas aller chercher un grand imam ou un grand cheikh, des gens qui ont simplement la conscience que c'est au cœur de leur vie et qui se disent, t'es ma sœur, vous êtes mes sœurs, 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, on va se voir, on va se donner des petits éléments sur la foi, sur le Coran, sur les informations. Chacun lit quelque chose et puis on en parle entre nous. 2 heures par semaine. Mais que ces 2 heures-là illuminent notre semaine, qu'on devienne un peu conscient, moins stupide, qu'on lise des choses, qu'on se voit pour parler de livres, qu'on a lu, d'articles, qu'on a lu. Tiens, tu prends cet article, tu prends cet article, tu prends cet article. On le lit, on en discute. Même si c'est rien, c'est énorme. Parce que c'est une discipline intellectuelle. Le petit groupe de formation, il est nécessaire. Il est nécessaire. Et si vous avez, alhamdoulilah, la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous aider, comme il en est ici énormément, on a vu les frères qui viennent, qui interviennent ici, toutes ces compétences qui sont présentes, elles sont là. Et bien, si vous avez ça, alhamdoulilah, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas important. La compétence se fait en marchant, se fait en avançant ces cercles de réflexion. Et puis il y a partout, plus largement encore, des associations locales. Si tu es conscient sur le plan individuel, si tu as plein d'associations sur le plan local, pour commencer à te triturer la tête avec se dire tendance, pas tendance, où est-ce que je peux être utile, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux donner, mon temps sur une activité sportive, mon temps sur une activité culinaire, mon temps sur n'importe quoi, mais donner. La vraie question, elle est celle-ci, qu'est-ce que tu donnes ? Plutôt que rester assis et de dire, il faudrait donner. Nous, les musulmans, on donne, mais toi, qu'est-ce que tu donnes ? Ton temps pour t'en informer, te former, ton temps pour essayer d'aider les gens qui sont autour de toi, de participer à cela. Ça, c'est à partir de cette prise de conscience individuelle, la vraie compréhension de tout ce que nous avons à faire. C'est quand on a cette conscience de l'individu, au petit groupe qu'on peut faire, à l'engagement dans une association, qu'on vient vraiment des témoins, qu'on vient véritablement des témoins pour les gens, qu'on sent qu'on a une conscience, qu'on ne peut plus nous en raconter sur le plan de l'information. On est au courant, on fait attention aux choses qui se passent dans le monde. Et puis ceci, et puis ce qui se passe là. Et puis on commence à avoir un esprit éveillé. Et puis la dernière étape, c'est là-dessus que j'aimerais terminer. C'est de se rendre compte que quand on est dans cette dynamique et qu'on a mis vraiment Dieu au centre de notre vie, eh bien, on s'aperçoit que tout à coup, c'est éveillé en nous une vraie conscience, une éthique, une morale. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas pour soi. Puis il y a des choses qu'on défend, des droits qu'on défend. Et il y a des choses contre lesquelles on résiste. Et on s'aperçoit que dans notre société, en France, pour ce qui vous concerne, ou en Belgique, ou en Suisse, ou en Angleterre, on s'aperçoit qu'il y a des gens dans cette société-là qui ont des principes et qui veulent les défendre. Que nous, Au lieu d'avoir pensé pendant longtemps qu'on était tout seul, renfermé sur nous-mêmes, on s'aperçoit qu'à côté de nous, il y a énormément de partenaires qui sont d'autres religions, qui sont d'associations, qui sont des humanistes et qui disent « ça n'est pas possible ». Comme cette jeune avocate qui vient me voir et je cite ces termes parce qu'ils m'ont blessé. Elle m'a dit « mais jusqu'à quand votre communauté sera une communauté de dégonflés ?» Alors, j'ai parlé longtemps avec elle pour lui parler du cheminement de cette communauté qui doit sortir de l'ombre à la transition, au complexe, à l'affirmation, mais à l'affirmation avec les autres. Elle, ce qu'elle a vu, c'est qu'elle a vu des gens qui avaient peur, que le dénominateur commun le plus important de notre communauté, c'est la peur. Alors tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens à côté de nous, et ils disent « mais nous, on travaille ». Et on travaille dans le même sens que vous, pour les droits, pour le travail social là où vous êtes, contre la drogue, contre la délinquance, pour les droits des gens. Combien il y en a de ces associations qui sont présentes, des êtres qui sont là? Et on va s'apercevoir que quand on a mis nous, on travaille pour Dieu, on travaille aussi dans cette spiritualité, mais on devient, dans le domaine de la citoyenneté du travail, il y a plein de partenaires. Et on commence à développer ce travail de partenariat. Surtout pas se fermer. Quand toute cette pression ferait qu'on a envie de se fermer, notre conscience et notre intelligence de là où on vit doit faire qu'on s'ouvre, qu'on discute avec des gens qui ont les mêmes principes, des gens qui ont les mêmes volontés de changer les choses. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qui se passe dans les prisons. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les dictatures. Il y a énormément de gens, quand vous leur dites « mais vous êtes d'accord avec ce qui se passe ?» Ils vous disent « non ». Vous êtes d'accord avec cette marginalité, vous êtes d'accord avec cette situation de chômage ? Personne ! Mais vous avez des gens qui s'engagent et il faut être présent avec eux. Nous ne sommes pas tout seuls contre tous. Il y a énormément de gens. Simplement, il faut commencer par les connaître, prendre le temps de discuter avec eux. Ceux qui ont une foi et qui sont présents, les chrétiens qui sont présents et qui travaillent aussi. Il y a aussi, à l'intérieur de la tradition juive, parce qu'il faut qu'on soit clair, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais antisémites. Mais quand il s'agit de l'État d'Israël et du sionisme et des injustices de cet État, alors nous parlons. Et qu'on ne vienne pas nous dire, quand nous parlons de l'injustice d'un État, qu'on est contre une religion. Jamais. Ça n'existe pas chez nous, l'antisémitisme. Mais contre la terreur d'État et l'injustice, alors nous élèverons nos voix. Et vous trouverez énormément de gens, et des juifs, qui tiennent ce discours, et qui vous le disent. Ils disent, moi, cet État-là, ce qu'ils sont en train de faire, ça me révulse. Vous en trouvez. Et nous, on est les partisans du discours de justice. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Dieu, il commande la justice. On va trouver des gens, des partenaires, et des humanistes pleins, qui sont prêts à faire ce travail du terrain. Il faut cesser, vraiment, du plus profond de votre cœur, cessez de développer trois choses. La première des choses, c'est ce complexe. Cette espèce de pression qui développe une attitude psychologique de crainte, de complexe. Moins le montrer, vraiment me cacher. La deuxième des choses qu'il faut vraiment éviter, c'est l'abrutissement, la paresse et la négligence. C'est-à-dire vraiment ne plus avoir une conscience éveillée et devenir comme le citoyen moyen, heureux de vivre, négligent de ses principes et allant comme ceci, comme le temps passe. Et la troisième des dimensions, se fermer et supposer qu'on est une toute petite communauté vraiment victime et qu'il n'y a personne à côté de nous qui travaille. Ces trois défauts sont ceux qui sont le plus partagés par notre communauté en Europe. Il faut cesser ça et il faut vraiment reprendre de chemin, chacun. Et c'est un discours pour chacun. Un, qu'est-ce que la foi fait de toi? Où en es-tu avec ce que tu crois? Qu'est-ce que tu fais pour te former? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais pour te respecter? Trois, qu'est-ce que tu fais comme action? Et pas des grandes. Est-ce que ta foi change ta façon de parler à ta mère? Est-ce que ta foi change la façon de parler à ton père, à ton frère? Est-ce que la foi change ta façon d'être avec la télévision? Est-ce que la foi change ta façon d'être avec ton temps? Est-ce que la foi change ta discipline avec le sommeil? C'est des petites choses, mais c'est des actions déjà. Quatre, quel type d'activité tu mènes dans ta vie
où tu puisses dire, là, c'est peu, mais je donne quelque chose. Je donne un peu de mon temps, un peu de mon argent, un peu de mes compétences. Qu'est-ce que tu donnes? Je m'en fiche à qui, mais à qui tu donnes, c'est pas important. Qu'est-ce que tu donnes pour témoigner? Et puis, dans ce travail-là, l'engagement quotidien, parce que ce doit être au centre de notre vie. Et tout ceci se résume à quoi? J'aimerais te poser une question, ma sœur. J'aimerais te poser une question, mon frère. Est-ce que tu es, ou est-ce que tu as pris conscience d'être un témoin devant Dieu de ce qu'est cet islam dont on dit tellement de choses, mais quand on doit te voir, toi, on doit se dire, c'est pas ce qu'on dit. Tu n'es pas et tu ne dois pas être à l'image de ce qu'on dit, mais montre-le. Est-ce que tu as conscience d'être témoin de ça? Est-ce que tu peux dire de ta vie quel est le témoignage de cette foi qui emplit ton cœur? Que tu sois vraiment témoin pour ceux qui t'entourent. J'aimerais vous demander une chose dans ce que vous faites quotidiennement, parce que maintenant, moi ça me pèse, ça me rend triste. L'espace de quelques secondes, mettez n'importe quelle personne que vous aimez pour sa foi, ou un être comme ça que vous pouvez imaginer injustement traité, comme ça, avec votre esprit, vous le mettez en face de votre vie. Quelqu'un que vous aimez pour sa foi, pour sa gentillesse, ou quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un que vous respectez parce qu'il est injustement traité, vous mettez en face de votre vie et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il pourrait en dire? Vous le respectez ou vous le négligez? Cette réponse-là, c'est la vraie réponse qui vous donne un petit élément pour savoir comment vous êtes avec Dieu. C'est comme vous êtes avec eux qu'on peut savoir si vous êtes avec Dieu. C'est ça qu'on vous l'a dit. Assalamu alaikum wa rahmatullah.